Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes de Radio Campus dans l'émission Sortez. Avec moi aujourd'hui autour de la table, Agathe, Thibaut, Camille, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, sans oublier Chloé, salut Chloé.
Salut.
Alors ils sont venus nous parler du planning familial, mais avant tout, est-ce que succinctement, vous pouvez vous présenter un peu tous les trois?
Yes.
Qui commence?
J'y vais, je crois. Moi, c'est Agathe. Je suis animatrice de prévention au planning familial depuis 3 ans maintenant. Bénévole et stagiaire avant tout ça. Voilà.
Très bien. Et pourquoi alors, dans ton parcours ou dans ta vie, tu as choisi de t'investir dans le planning familial?
Le planning familial, moi, c'est une petite histoire d'amour qui est née à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans de ça. J'étais en bac pro, je cherchais ma voie, j'avais décidé que je travaillerais plus trop, enfin que je travaillerais pas dans ma vie, je sais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai fait un stage au planning familial. Et puis j'y suis restée parce que je me suis trop éclatée, que je suis trop en accord avec les valeurs, les missions du planning. Donc voilà, j'ai fait pas mal de bénévolat, des stages et j'ai eu le privilège d'y avoir un poste il y a 3 ans.
Super. Alors, Thibaut peut-être?
Moi c'est Thibaut, je suis étudiant infirmier en 3e année et donc stagiaire au planning familial.
Ok, et tu as pu choisir tout de même d'y aller, enfin tu avais plusieurs choix, ou pourquoi?
Alors,
tu as fait ce choix?
Non, on m'a attribué ce stage, mais j'en suis très, très satisfait.
T'intéresses?
Je suis vraiment très content d'être tombé dans cette assos, c'est génial.
Yeah.
Donc moi c'est Camille, je suis également animatrice de prévention comme Agathe depuis bientôt 3 ans aussi. Je suis de formation assistante de service social et je suis rentrée au planning familial suite à une formation qui a été donnée aux étudiants. Et là j'ai découvert en accord avec mes valeurs, j'ai eu la chance aussi d'avoir un poste qu'on va pas lâcher.
Super. Donc alors du coup maintenant la question, je pense qu'on attend tous. Qu'est-ce que le planning familial?
Débuter par... c'est une association.
Féministe et d'éducation populaire. On se complète.
On est situé du coup au centre de vie du Sanitas, au 10 Place Neuve. Ce sont nos seuls locaux pour l'entièreté du département. Il y a un planning familial pour le département. Déjà, c'est important de le dire. Ouais. Et on se déplace dans l'entièreté du département. Il faut bien dissocier le planning familial où nos missions, ce sont les préventions. On n'a pas d'équipe médicale. Souvent, on nous confond avec les centres de planification où là, il y a des équipes médicales. Puisqu'en fait, il existe 73 plannings familiaux en France. La moitié sont associés à un centre de planification et l'autre moitié, comme le cas en Indre-et-Loire, sont dissociés.
C'est ça. Et Camille l'a bien dit, la mission principale du planning familial, c'est la prévention, l'information, l'orientation de tous les publics.
Et la formation pro.
Et la formation évidemment des professionnels aussi, puisqu'on n'est pas centre de planification à la place. On forme les professionnels à tout le volet prévention sur nos deux grandes thématiques qui sont la vie affective et sexuelle. Donc ça c'est très connu, on parle du corps, la puberté, les fonctionnements, les dysfonctionnements.
La parentalité,
la grossesse, la contraception, les relations tout simplement, familiales, amoureuses, sexuelles, amicales, professionnelles, pourquoi pas. Et puis deuxième grande thématique qu'on aborde au planning familial, c'est les violences sous toutes leurs formes. C'est un peu moins connu dans les missions du planning. Mais là aussi c'est assez large, hein. On est sur les violences morales, psychologiques, alors verbales, physiques évidemment, le harcèlement, les discriminations...
Tout ce qui est violence sexuelle, effectivement, les viols, les agressions sexuelles, les mutilations sexuelles.
Les mariages forcés, et on en passe, et des pas trop meilleurs.
C'est une association qui a 60 ans, et en fait, au fil des années, elle évolue, les thématiques évoluent en fonction de la population aussi. Donc les thématiques évoluent en fonction des besoins du public.
Oui, voilà, je me demandais, donc, cette association... Association fut créée en 1967, du coup, pour être exact, et
oui.
Je me demandais pourquoi, dans quelles circonstances elle a vu le jour. De même, je me disais, le sida, par exemple, ça aurait pu être un déclenchement à créer des associations en France pour vraiment la prévention, tout ça. Et le sida, c'est 81, je crois, le premier recensement. Alors du coup, 1967, ça me paraît vachement
En fait, à la base, le planning familial, c'était une petite association qui s'appelait Maternité Heureuse et qui avait pour objectif de pouvoir permettre aux femmes de planifier les naissances et donc d'avoir des maternités qui soient heureuses et non plus subies. Ça, c'était le truc historique sur le volet contraception IVG, en fait, avec des centres d'avortement clandestins au début, tout ça. Et puis, comme Camille l'a dit, les préoccupations sociales et sociétales évoluent et donc les missions du planning familial avec.
Carrément. Y a-t-il des lignes directrices d'action, qu'elles soient morales ou réelles dans le contexte, à devoir respecter pour tous les plannings familiaux de France? Ou est-ce que vous êtes un peu libre dans votre région?
Alors, Agathe l'a dit tout à l'heure, on a deux grandes valeurs déjà qui sont importantes dans tous les plannings familiaux, le féminisme et l'éducation populaire.
L'éducation populaire, très rapidement, pour le résumer, c'est l'éducation partout, pour tous et par tous. On considère que tout le monde est capable de recevoir et de comprendre l'information si on l'adapte à son niveau de compréhension, d'âge et autres.
Donc même très, très jeune, vous voulez dire, même pour un public enfant?
Oui, même, on le dira plus tard, mais on rencontre des personnes en situation de handicap, on rencontre des personnes migrantes avec lesquelles on peut avoir une barrière de la langue. On a vraiment tous les publics et notre mission de prévention, en fait, c'est d'adapter l'information qu'on va amener pour que notre public soit en capacité de le recevoir.
Bien sûr. Camille, tu avais quelque chose à rajouter peut-être?
Par rapport aux lignes directrices, effectivement, au niveau national, il y a des lignes directrices du planning familial qui sont votées. Après, chaque association est assez indépendante dans la façon de l'appliquer. C'est-à-dire que toutes ne vont pas avoir des séances collectives, toutes ne vont pas faire de l'individuel, mais par contre, les lignes directrices sont votées au niveau national. Ça, c'est important.
Et j'en profite pour préciser quand même qu'en Indre-et-Loire, alors pas du tout en termes de locaux ni de masse salariale, mais on est le plus gros planning familial d'Indre-et-Loire en termes d'action et de public rencontré. On rencontre entre 12 000 et 14 000 personnes à l'année. Alors pas grâce aux 5 salariés du planning familial, mais surtout grâce aux 250 bénévoles.
250,
oui. Ouais, bénévoles actifs du planning familial. Et pour compléter ce que disait Camille, par exemple, nous en Indre-et-Loire, on rencontre énormément de publics. Je parlais de personnes en situation de handicap, de personnes migrantes. Ce qui se fait dans le 37 se fera pas forcément à côté dans le 41. Ils feront sûrement, certainement, autre chose. Mais nous au planning familial 37, l'objectif qui est atteint maintenant, mais c'était vraiment de pouvoir toucher tous les publics dans le secteur social, médico-social, socio-éducatif, on va dire.
Mais quels moyens du coup avez-vous mis en place pour être le meilleur, mais c'est complètement,
juste le plus actif.
Quels moyens avez-vous mis en place pour être les plus actifs?
On a un directeur qui ne compte pas ses heures, qui est très très investi et qui croit en ce qu'on fait et qui donc vend les actions du planning familial. Alors vend, effectivement, il n'y a pas d'histoire d'argent, hein, mais qui promotionne, j'ai envie de dire, les actions du planning familial auprès de tout un tas de structures.
Il a su, notre directeur Merzad Warni, du coup, mettre en place ses actions en fonction des demandes des structures. Donc en fait, c'était une co-construction au tout départ des interventions collectives qui a fait que petit à petit, ça fait l'effet boule de neige en fait. Ces interventions ont fonctionné et du coup, les autres structures d'à côté ont dit ça fonctionne. Donc en fait, ça a pris de l'ampleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'action, on est vraiment le plus grand planning familial en termes d'action sur le territoire.
Ok. Agathe, tu l'as dit, du coup, 5 salariés.
5 salariés.
250 bénévoles, c'est
oui,
ça?
Oui, et plus de 400 adhérents en 2019, ouais.
Donc c'est vraiment les bénévoles qui font vivre aussi cette association?
Évidemment, on n'arriverait pas à rencontrer 12 000 à 14 000 personnes à l'année, en sachant que sur les 5 salariés, donc il y a Merzad Rouani qui est notre directeur, qui lui fait de moins en moins d'interventions de terrain, quoi, qui fait un petit peu de formation professionnelle quand même. On a Isabelle qui est gestionnaire administrative, qui s'occupe de tout ce qui est formulaire CERFA, demande de subvention et compagnie.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot, elle pourrait rester bosser le week-end. Et du coup, on se retrouve à 3 intervenantes de terrain. Donc effectivement, ouais, 200 bénévoles, c'est pas du luxe pour faire tout ça. Nos bénévoles, ils viennent pour la plupart du secteur social ou médico-social, mais pas que. En grande majorité, je dirais qu'il y a quoi, à peu près 50% d'étudiants du secteur social, médico-social, donc des infirmiers comme Thibault, mais aussi des assistants de services sociaux, des aides-soignantes, des médecins, des pharmaciens, des
psychologues. On a 1% de personnes qui sont à la retraite aussi, voilà.
Voilà.
Et c'est vraiment le mélange de toutes ces personnes-là, avec leurs compétences, avec leur champ d'activité, qui fait que c'est toute la richesse du planning d'avoir ce melting pot de personnes.
Nous, on se forme en interne, mais c'est vrai que c'est riche. Ouais.
Et donc, comment vous trouvez aussi les fonds nécessaires? Enfin, j'entends par là, si jamais vous distribuez des pilules ou quoi que ce soit, qui paye ça? Les adhérents, peut-être? Il y a une différence entre bénévoles et adhérents, non?
Alors, les adhérents ne sont pas forcément des bénévoles du planning familial. En revanche, les bénévoles sont forcément adhérents au planning familial. L'adhésion, elle est dérisoire. C'est quoi? C'est 20 euros.
Ouais.
Et 20 euros et 8 euros pour les étudiants, demandeurs d'emploi, chômeurs, etc. Donc, c'est clairement pas ça qui nous fait vivre, parce qu'on a un budget d'à peu près, je crois, c'est 400 000 euros annuels. Ouais. On n'a pas de budget de fonctionnement non plus. On fonctionne par subvention vraiment, qui sont par projet. C'est pour ça qu'on a Isa qui passe son temps à remplir des serfards, en fait.
Des demandes de subvention. Ouais.
Donc, on a un projet handicap sur lequel on est subventionné. On va avoir un projet, je sais pas moi, pour les quartiers prioritaires de la ville de Tours, sur lequel en 2018 on va avoir une enveloppe. Et puis en 2019, pour X ou Y raison, l'enveloppe elle va se réduire de moitié. Donc,
ce qui explique en fait toute la précarité du planning familial, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision à long terme. Mmh. Vu qu'on n'a pas de budget de fonctionnement, on ne sait pas combien de temps on pourra encore exister.
Voilà, on a des enveloppes par projet uniquement. Mmh. Ouais.
Donc il y a des actions que vous ne pouvez pas mettre en place, faute de moyens?
Ah oui, on a trop d'idées, nous. oui.
Ok. Et alors, pour finir un peu sur la présentation du planning familial, majoritairement, quelle tranche d'âge accueillez-vous?
Eh bah, ben, du tout venant. On intervient même dans les écoles maintenant. On a des petits qui viennent nous voir avec leurs parents. Je dirais que ça commence à partir de 5-6 ans.
Ouais.
Et puis, on a des entretiens dans des EHPAD aussi avec des personnes âgées. Donc, vraiment.
Tous les âges, ouais.
Tous les âges.
Tous les âges.
Oui, tous les âges concernés dans tous les cas, bien sûr.
C'est ça.
Eh bien, il est temps d'une pause musicale, Chloé, n'est-ce pas?
Oui, et vous n'allez pas être déçus, parce que c'est une musique que j'aime beaucoup, mais attention les oreilles, parce que c'est un petit peu particulier. On va se lancer sur Maxence, il est un youtubeur, mais qui fait aussi de la musique, et la chanson s'appelle « Cheveux ».
Pas des cheveux en paille, pas de pacotille. Mes cheveux longs font qu'ils glissent et qu'ils brillent. Mes cheveux c'est ma faille, j'aime quand ils s'entortillent. J'aime quand ils pointillent et qu'ils touchent mes papilles. Mais plus les jours repassent, plus je suis indécis. Dans l'écho de la glace, une future calvitie. Faudrait-il que je coupe ou que je tonifie? Marée me dégoûte et je me tue mes filles. Tant d'années sont passées, j'ai jamais su comment coiffer. À peine je franchis le palier de la coiffe, je suis dégoûté. Tant d'arrêts sur marée, si jamais j'avais succombé. La peine de finir fou, allié mène en route kabyle, traqué mon avenir est dérouté par une armée de ciseaux dentés. Mais faudrait-il que je coupe ou que je glorifie? Mon cheveu trop âgé, gorgé de nostalgie, il me prime, me menace. Pour le laisser ici au bord d'une crise d'angoisse capillaire chauffe ici. Il s'incarne dans mon crâne et me lance des paris. Une bataille dans mes poils pour un motif précis. Coup d'état sur ma tête qui prend l'air dans mes yeux. Des cheveux avec du gel et des pics pour pouvoir avoir l'air d'un gros méchant. Je veux des cheveux avec du gel et une crête pour pouvoir ressembler à un regard. Je veux des cheveux avec une coupe au bol pour pouvoir déguster plein de céréales. Je veux des cheveux avec des bigounis pour avoir les jolis cheveux en forme de spaghetti. Je veux un début wedding California pour des waffles ressembler à un chat. Je veux pour mes cheveux aller. Je veux des cheveux avec du volume
Eh bien, merci Chloé pour cette musique. C'était Maxence, du coup, cheveux. Eh bien, toujours avec Camille, Thibault et Agathe du planning familial. Alors voilà, comme ils l'ont évoqué beaucoup, ils ont vraiment un rôle de prévention. Alors du coup, d'où ma question, combien de campagnes de prévention faites-vous en gros par an et quel public est visé?
Alors, on réalise pas à proprement parler de campagne de prévention. Ça, c'est plutôt le national qui s'en occupe, le planning familial national, pardon. En revanche, on bosse avec 350 structures à l'année. Des structures sur lesquelles on va faire une, deux, trois séances collectives, et puis d'autres structures sur lesquelles on nous demande d'intervenir de manière plutôt régulière. Par exemple, demain matin, je vais dans un ESAT, un établissement de services et d'aide par le travail, rencontrer des personnes en situation de handicap qui sont donc sur leur lieu de travail et qui ont besoin d'un accompagnement de la part du planning familial. C'est sur la base du volontariat, mais je suis toujours complète à chaque fois que j'y vais, toujours énormément de monde. Donc vraiment, ça dépend des structures. C'est un peu archaïque, je dirais, notre manière d'intervenir. On dispense des séances collectives d'information et de réflexion pour la plupart. On peut s'adapter aussi sur des thématiques assez variées. Et puis on propose aussi des accompagnements individuels. On propose aussi des prêts d'outils éducatifs, pédagogiques. On a énormément d'expositions.
À titre d'exemple, tout à l'heure avec Thibaut, enfin ce midi avec Thibaut, nous étions dans un CFA, ouais, pour pas le nommer, où on a mis en place un stand, tout simplement pour au milieu du self. Ça, on pouvait pas nous rater, pour aller à la rencontre des personnes, parce que voilà, qu'ils puissent venir s'informer, avoir s'ils ont des questions, prendre des préservatifs, prendre de la documentation s'ils ont pas envie de nous poser des questions, tout simplement. Donc voilà, vraiment, c'est pas des campagnes, mais en tout cas, c'est des temps qu'on met dans les structures ou hors structures, où on viendra un petit peu après, je pense, pour que les personnes puissent se saisir de ce temps et venir nous rencontrer.
Ok, très bien. Et donc, oui, c'est quand même le but étant de prévenir un public tout de même assez jeune. Peut-être vous faites beaucoup de... Alors, campagne n'est plus le mot, attention, mais de prévention dans les écoles, sûrement.
Oui, alors le public scolaire, c'est peut-être le public pour lequel on est le plus connu.
Et sollicité,
mais c'est pas la majorité de nos actions. En tout cas, oui, public scolaire, public jeune, donc scolaire, j'entends primaire. Collège, lycée, CFA, MFR, maison familiale rurale et lycée pro.
Et école maternelle, ça commence, Marielle?
Oui, école maternelle, ouais, effectivement. Marielle, alors on ne l'a pas présenté, toutes nos excuses. Marielle Thomine, c'est notre troisième collègue salarié de terrain. Voilà. Okay. Qui commence du coup, effectivement, à aller à la rencontre du public primaire.
Et maternelle.
Et maternelle,
les
pardon.
Deux, les deux.
Oui, effectivement. Donc voilà, on fait des séances collectives, individuelles, des points écoute dans ces établissements-là.
Ok. Et par exemple, pour...
Je ne me rappelais plus de la question, pardon.
Pas de problème. Mais ça me fait rétorquer parce que du coup, vraiment sur le primaire, le sujet de la sexualité, ça peut être... Enfin, c'est pas encore quelque chose vraiment de... mature, dirais-je, mais alors quelles idées voulez-vous leur véhiculer déjà à cet âge-là?
Alors on travaille sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Effectivement, des enfants, on leur parle pas de comment mettre un préservatif ou c'est quoi un pénis, c'est pas ça. On va parler plutôt du consentement, du corps, de quelles sont les limites, de quand est-ce qu'on... comment dire non, comment accueillir le non, enfin voilà.
Comment savoir quand l'autre est d'accord, pas d'accord?
Tout ça, ça permet en fait de poser les bases pour éviter plus tard, en tout cas avoir les bases pour éviter tout ce qui est violence, agression, tout ce qui est... alors qu'on soit victime ou auteur, attention. Voilà, c'est vraiment pour limiter et avoir une connaissance. Le planning, on parle toujours de libre de nos choix. Nos choix, nos droits, voilà. Si on n'a pas de connaissance, je pense qu'on ne peut pas prendre de décision. Donc permettre aux jeunes, au moins jeunes, de savoir pour pouvoir choisir.
Et pour rebondir, dans les écoles primaires et maternelles aussi, il y a un gros travail qui a été fait cette année. Alors dans les écoles qui l'ont demandé, évidemment, parce qu'on peut pas répondre à tout le monde, on est débordé. Un gros travail qui a été fait sur la notion de genre et sur les discriminations. En gros, ouais, le travail dans les écoles auprès des jeunes, c'est la prévention des violences
de manière générale, plus que la vie affective et sexuelle, la prévention des violences sexuelles, mais pas que. Ouais.
On a du mal à dissocier parce que tout est transversal. Mmh. En plus, ce sont des thématiques, Agathe les a énumérées tout à l'heure, qui touchent tout le monde, le public avec lequel on travaille, nous, les professionnels qui travaillent avec les publics. Donc vraiment, c'est important de déconstruire et pour les professionnels et pour le public. Voilà.
Oui, carrément. Oui, de... Et alors, c'est vraiment le fait que vous changez d'approche en fonction des publics, du coup.
Oui.
Et j'ai entendu dire que, par exemple, vous allez dans les prisons aussi.
Oui.
Alors, quel est le but, par exemple, dans ce...
On va dans la maison d'arrêt qui est à Tours, Henri Martin. Et là, pour le coup, on rencontre uniquement... Alors pareil, on est surdemandé, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes qu'on a de la part des détenus de nous rencontrer. Mais là, on bosse uniquement sur auprès, en tout cas, d'auteurs de violences. Alors pas forcément sexuelles, mais on rencontre les auteurs de violences. Il faut savoir qu'à la maison d'arrêt de Tours, il n'y a que des hommes. Il y a un quartier majeur et un quartier mineur. On intervient donc sur les deux quartiers au planning. Et voilà, à travers des séances collectives et des entretiens individuels aussi. Donc là, voilà, c'est vraiment travailler autour de la violence. Et le but, c'est de travailler autour du passage à l'acte pour éviter la récidive. Si...
Oui. Et souvent, on a des personnes qui viennent, alors des détenus ou des prévenus de la maison d'arrêt qui, une fois qu'ils sont sortis... alors pas tous, hein, évidemment, mais avant un passage à l'acte, vont venir nous ressolliciter. Pour pouvoir travailler, en fait. Ils nous ont identifié. L'objectif, c'est ça aussi. Une identification pour après savoir quelles personnes ressources sur le terrain aller chercher pour limiter.
Mmh.
Voilà. Et auprès de, c'est très très probant auprès du public maison d'arrêt, enfin auprès des détenus, pardon, et des prévenus. Mais c'est vrai que c'est aussi l'objectif auprès de tous les publics, hein, l'identification du planning familial. On sait par exemple que quand on arrive, bah, je sais pas, dans une classe de troisième pour parler vie affective et sexuelle, ils en sont tous pas déjà au même point. Et puis ils se sentent peut-être pas tous très concernés par ce qu'on va leur raconter. Nous, si effectivement ils nous ont identifié, qu'ils sont en capacité de revenir nous voir dans 6 mois ou 6 ans, c'est gagné.
D'accord. Et donc, oui, le planning familial, du coup, c'est vraiment aussi tenir compte des violences morales ou des rapports. Est-ce que c'est aussi le rapport de couple? Enfin, des couples peuvent venir vous voir pour retrouver un équilibre ou quoi, quelque chose comme ça?
Très souvent, oui. Ouais. On a Merzad Rouhani, notre directeur, qui est assez spécialisé là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a malheureusement encore une fois pas le temps de répondre à toutes les demandes, on est un petit peu débordé. Et on a aussi des partenaires associatifs qui le font très bien. Donc quand on n'a pas le temps, on renvoie. Mais oui, ça fait aussi partie de nos missions.
Effectivement, oui. Nos missions, c'est aussi l'orientation. On a la chance aussi d'être le planning familial est inscrit sur le territoire. C'est aussi avoir... une connaissance du tissu associatif qu'il y a aux alentours et une orientation aussi du public. On n'est pas en train de se dire c'est une situation qu'on ne sait pas gérer, on va repasser. C'est pas ça. C'est orienter au mieux les personnes. Elles en ont marre de raconter souvent 1000 fois leur situation et de ne pas avoir le bon interlocuteur en face. La chance qu'on a, c'est que connaître les partenaires et pouvoir les orienter au mieux, au plus précis de leurs demandes et de leurs besoins. Ce qui n'est pas tout à fait les mêmes choses des fois.
C'est ça. Par exemple, nous, au planning familial, on sait le faire, hein, mais on n'est pas spécialiste de tout ce qui est question juridique. Pourtant, dans les situations de violence, ça vient très souvent, le volet juridique. Donc, on va avoir tendance à renvoyer vers un super partenaire avec qui on bosse énormément, qui est France Victime. Voilà, il y a le centre LGBTI de Touraine pour d'autres questions. Il y a le centre d'information droit des femmes et des familles. Il y a la maison des adolescents. J'en passe, on pourrait pas faire tout le tissu associatif tourangeau en une heure, mais voilà, on a des super partenaires qui bossent très bien sur des thématiques un peu plus ciblées, donc ouais, on a tendance à réorienter pas mal.
Oui, voilà, pour vraiment guider les personnes vers leur principal moyen d'action pour s'en sortir quelque part, même si c'est pas... Et donc, alors ça m'évoque une question, alors que la personne n'était pas venue à la base pour ça, apercevez-vous parfois des cas de violence n'étant même pas repérés par les victimes?
Oh oui. Bien souvent. Quand on fait des séances collectives et qu'on va parler de ces notions de violence physique, verbale, sexuelle, peu importe, il y a des gens pour qui ça va faire résonance. Alors, ils vont peut-être se dire bah, peut-être que c'est normal, peut-être que c'est pas normal, venir nous en parler ou pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont nous parler de situations et il est possible parfois qu'on place ce mot-là, violence. Alors, c'est tout un travail de attention, est-ce que c'est le moment, est-ce que la personne est prête à l'entendre, etc. Mais parfois, c'est un premier déclic qui permet une prise de conscience. On le sait très bien, c'est à la personne de s'en rendre compte elle-même pour pouvoir sortir potentiellement d'un schéma de violence. Donc le mieux c'est que ce soit elle qui s'en rende compte, la personne, hein, pas, je sais pas, c'est pas genré, hein, elle, la personne, pour pouvoir entreprendre des démarches pour sortir de cette situation. Mais oui, ça nous arrive souvent.
Oui, mais donc en parler est le moyen de le faire émerger à l'intérieur d'elle-même, sûrement aussi.
Hein. Oui.
Je pense que sur une séance collective, c'est rare qu'il y ait une séance collective qui, enfin, c'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est rare qu'il y ait une séance collective qui se finisse sans qu'il y ait au moins une, alors des fois c'est beaucoup plus, personne qui souhaite nous parler individuellement en disant, bah, vous avez parlé de, je sais pas, de violence conjugale par exemple. Moi, j'avais pas trop réfléchi, mais en fait, je crois que, bah, c'est un peu ça que je vis. Et bah, ouais, parce que quand on met pas le mot dessus, qu'on en parle jamais, et bah, on le vit, et puis on le vit, mais on le vit pas comme étant une situation de violence réelle. Rencontrer le planning, et prendre conscience que tel ou tel acte c'est déjà de la violence, bah, c'est une première prise de conscience.
Et c'est souvent parce qu'on a tendance, les victimes ont tendance pardon, à minimiser en fait. Non mais c'est pas grave, enfin, c'est arrivé une fois, c'est pas grave. Voilà. Donc cette prise de conscience là, pardon, elle se fait petit à petit. Ouais.
Des choses toutes bêtes, même des gens qui ont été violés et qui, avant qu'on travaille sur la définition du viol en séance collective ou individuelle, qu'importe, n'avaient jamais mis le mot sur ce qu'ils ou elles avaient vécu.
Alors ça peut être intéressant d'ailleurs de partager avec nos auditeurs la définition que vous avez du viol. D'où ça part? Quel est le commencement?
Alors, le viol, c'est une agression sexuelle, tout d'abord, qui est un crime dans la loi. C'est très simplement une pénétration non consentie de l'anus, de la bouche ou du vagin par une partie du corps ou un objet. Attention, on se concentre. Ça veut dire que les femmes peuvent violer, ça veut aussi dire que les hommes peuvent être violés. Et on insiste beaucoup là-dessus en séance, parce qu'on voit des cas...
Moi, je prends souvent un exemple aussi, alors un peu cliché peut-être, soirée d'intégration, si on force quelqu'un à mimer une fellation sur une banane, c'est un viol.
Voilà.
Si la personne n'est pas consentante.
Okay.
Et ça, souvent, ça fait « oh ». Voilà, on a ce genre de, de réaction. Bien souvent, sur « oui, ça s'appelle un viol ».
C'est ça.
On est sur un crime. Au niveau de la pyramide, au niveau de la législation, c'est le plus haut. Hein. Je ne sais pas, je me rappelle même plus de la peine de prison, 20 ans.
Ouais. Sans circonstances aggravantes.
Voilà.
Oui, ça peut avoir totalement vraiment une répercussion psychologique sur celui qui justement, ou celle d'ailleurs, qui met la banane dans la bouche. C'est quand même déjà très psychologiquement dur, je pense, à assumer...
Oui, c'est ça. Puis il y a des situations banales en fait d'agression sexuelle qu'on voit tous les jours, enfin qu'on voit tous les jours, dont on parle en tout cas. Tout à l'heure en séance, là, moi j'étais avec un groupe en garantie jeune à la mission locale. On nous a parlé de l'olive. L'olive, c'est très drôle. Mon copain qui se baisse dans les douches des vestiaires du sport, et puis pour rire, je vais aller mettre un petit doigt dans ses fesses. Bah, c'est drôle, ça s'appelle une olive. Mais avant de s'appeler une olive, ça s'appelle un viol. Donc voilà, c'est des choses. C'est des choses qui sont importantes de souligner et en tout cas moi en séance je le mets souvent en lien avec le travail qu'on fait à la maison d'arrêt en leur expliquant qu'il y a un quartier mineur à la maison d'arrêt, alors quand on est avec des jeunes hein, mais pas que, il y a un quartier mineur à la maison d'arrêt et que malheureusement il y a des petits jeunes qui s'y retrouvent en n'ayant pas bien compris ce qu'ils faisaient de mal sur le coup. Parce que bah, pas de prévention au niveau où il aurait fallu qu'il y en ait quoi.
Voilà, on repart sur, dès la primaire, parler du consentement.
Complètement.
Ouais.
Exactement. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. On peut peut-être passer à la deuxième pause musicale dorénavant.
Oui, tout à fait, et qui sera un peu plus soft par rapport à ce qu'on vient d'écouter, car ce sera Laurent Garnier et Chambray, Feeling Good. We'll be right back.
Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. Encore et toujours Camille, Thibaut et Agathe. Et alors que Thibaut n'a pas encore parlé, moi j'avais envie de lui poser une question. Alors, comme vous le savez, il se destine à devenir infirmier. Alors Thibaut, quel est ton point de vue sur la prévention et pourquoi penses-tu que c'est important ?
Alors un stage au planning familial, ça sort déjà un petit peu des stages qu'on a l'habitude de faire. Hein, école d'infirmiers, souvent c'est dans les services ou voilà, dans le milieu paramédical en tout cas, médical. Mais je trouve que c'est très formateur du coup parce que alors déjà on peut ça nous aide à un peu appréhender tous les types de publics qu'on pourra retrouver plus tard. Que je pourrais retrouver plus tard dans mon futur métier. Et voilà. Et donc, du coup, la prévention aussi, en fait. Comme ça, on voit un peu tous les types de publics et quelle prévention on peut en faire et par s'adapter. Je sais pas si c'est très clair.
Ouais. Et si je peux me permettre, Thibaut, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que vous n'avez pas tellement de cours, justement, sur tout ce qui est le volet prévention, des violences notamment, alors que vous êtes quand même en première ligne.
Ah oui, non, on l'aborde en cours, évidemment. On a beaucoup de cours sur les concepts.
Ouais.
Mais oui, non, les violences. Non, oui, c'est vrai.
Moi, je pense que c'est bien aussi que les stagiaires infirmiers, en tout cas infirmières, qui passent au planning, je pense qu'ils acquièrent tout un tas de billes, justement, pour déceler des situations de violence conjugale, familiale ou autre, pour lesquelles l'hôpital, parfois, c'est le bon lieu, quoi.
Mm-hmm. Oui.
Même apporter un point de vue plus psychologique sur des choses qui resteraient scientifiques à la base.
Oui, bien sûr, oui, pour des actes, par exemple, très techniques dans des services où il y a beaucoup de techniques, oui, ça peut apporter, évidemment, oui, un peu plus essayer de cerner les gens, s'attarder plus sur la personne aussi, plus que sur l'acte en lui-même.
Et puis la prévention, c'est quand même pour éviter les risques ou les limiter, en tout cas, ce qui ferait une... un peu bête pour la sécurité sociale. non, je blague évidemment, mais ouais, c'est très important.
Mm-hmm. Yes.
Mais c'est important que tous les acteurs, que tout le monde soit formé à la prévention en fait, pour pouvoir agir chacun à son échelle, à son niveau.
C'est ça.
Pour ça.
Ok, alors avant de passer à l'événement que vous organisez le 26 septembre, avant d'en parler plus complètement, complètement. J'avais deux, trois questions tout de même, un peu de gauche et de droite.
Ouh là là.
Alors, je me demandais, moi, que conseillez-vous comme moyen de contraception le plus sûr chez la femme
Celui qu'elle choisit.
Okay.
C'est très important. Pardon, je m'impose comme
Vas-y.
Ça. Il existe plein de moyens de contraception. 11 de mémoire.
12.
Ouais. Voilà. S'il en existe 12, ça veut dire qu'on est toutes différentes. Je parle toutes parce que les moyens de contraception, mis à part le préservatif, ce sont encore pour les femmes aujourd'hui. Ça tend à changer. Mais en tout cas, il en existe 12 pour qu'on puisse chacun, à différents moments de sa vie, choisir celui qui nous correspond au mieux. Oui, je vais en soirée, je vomis tous les soirs. Non, je ne vais pas prendre la pilule parce que je risque de la vomir. Si je suis tête en l'air, je ne vais pas prendre la pilule. Si j'ai peur...
Éthiquement, je ne veux pas bouffer d'hormones.
Voilà.
Chacune sa raison de choisir sa contraception. Alors des fois c'est médical, malheureusement. Oui. Il y a des moyens de contraception qui ne conviennent pas à certaines femmes. Et puis des fois c'est éthique, moral.
Il n'y en a aucun qui est sûr à 100%, mis à part l'abstinence.
Mais celui-là, on l'aime pas trop.
Ça dépend des femmes.
Il y en a peut-être des plus naturels ou moins chimiques que d'autres, peut-être à préconiser pour ne pas justement dérégler le corps de la femme.
Il y a des méthodes dites mécaniques, je pense par exemple au stérilet au cuivre, mais ils ont tous des inconvénients et des avantages en fait. Vraiment, ça dépend de la situation de chacune. Nous, on essaie justement de pas plébisciter un moyen de contraception plus qu'un autre, puisqu'on sait qu'ils sont pas tous adaptés à tout le monde. On essaie par contre de lutter contre le fait qu'on colle la pilule à toutes les jeunes filles qui veulent commencer leur vie affective ou sexuelle, parce qu'on sait que c'est pas adapté à toutes. Voilà.
Petite idée reçue aussi, la méthode du retrait, le fait de se retirer avant éjaculation ne fonctionne pas.
Oui.
Pour une fois qu'on peut le dire au grand public comme ça, ça ne fonctionne pas.
On est là.
Voilà.
Okay.
Il y a des risques de grossesse.
Il y a des risques de grossesse et de contamination des IST.
Yes.
Ok. Alors, autre question saugrenue. Que pensez-vous des effets de la pornographie sur le comportement sexuel des jeunes ? Et avez-vous mis en place des moyens de prévention à ce sujet précisément ?
La pornographie, c'est un sujet qu'on aborde quasiment tout le temps. Il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, la pornographie, elle est partout. Elle est plus seulement sur Internet, elle est dans la rue, sur les affiches publicitaires. Elle est, quand je vais regarder un film, télécharger un film, elle va être là. Elle est plus imposée qu'avant. On ne va pas aller forcément la chercher. La pornographie, ça existe, c'est parce qu'il y a un intérêt. Ce qu'on préconise en tout cas, ou ce qu'on essaie d'échanger avec les gens, c'est oui, ça existe, mais ce n'est pas un moyen d'apprendre la sexualité. Il y a plein de catégories au niveau de la pornographie. Il y en a où l'image quand même, assez souvent, c'est une femme dominée, pas forcément consentante au départ, mais qui est super d'accord et qui crie tout le temps. L'homme est super viril, l'éjaculation est très très importante, la taille du pénis est très très grande aussi. Voilà, c'est ces images-là en fait où ce sont des scénarios avec des acteurs, avec des post-clop, avec
des effets spéciaux, des dopants.
Oui,
des...
voilà. Et ouais. Moi, je prends toujours l'exemple... Alors, j'arrête Bruce Willis parce qu'on m'a dit que j'étais un petit peu naze au niveau de la référence, mais Jason Statham qui va sauter d'un hélicoptère, il va pas le faire pour de vrai. Là, c'est pareil, dans les films pornographiques, ce n'est pas la réalité, c'est une image préconçue. On crache pas dessus, hein, la pornographie, si ça existe. C'est très bien, ça permet d'exciter, ça permet d'avoir des idées, ça permet de...
De lutter contre certains passages à l'acte peut-être.
Voilà,
de...
très bien, mais en tout cas, il faut l'accompagner.
Ouais, expliquer aux jeunes et aux moins jeunes que c'est pas parce que je regarde un film porno que je vais pouvoir reproduire ce soir à la maison, quoi. C'est tout. Comme Star Wars ou...
Si par contre tout le monde est consentant, reproduisez.
Allons-y.
Mais ouais, à contrario.
Oui, bien sûr. Et
le but, c'est de déconstruire en fait toutes les idées préconçues que encore tout à l'heure, j'en parlais avec les jeunes là, à la mission locale. Le petit gars qui a 14-15 ans, qui se dit ah, c'est peut-être bientôt mon tour, je peux pas en parler à la maison avec les copains, tout ça. Si vous allez voir sur YouPorn comment ça se passe. Et ben, imaginez la première relation sexuelle s'il essaye de tirer les cheveux de son ou sa partenaire, de lui mettre des fessées, de l'insulter, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on insiste, nous.
Mais souvent, la pornographie, elle pallie à un manque d'éducation à la sexualité. Oui. Donc, on travaille aussi beaucoup avec des personnes en situation de handicap de tout âge. Ouais. Souvent, ils vont chercher aussi cette information comme ça. N'hésitez pas, voilà, à venir nous rencontrer. Si vous avez des questions, on pourra vous accompagner sur comment ça se passe potentiellement, sur comment ça peut se passer, sur comment on découvre, etc. Autre que la pornographie.
Oui, oui, c'est bien sûr une relation... d'âme à âme, l'amour et la pornographie ne définit pas, absolument pas, le rapport sexuel réel et naturel.
Même voilà. Sans amour, on a le droit de coucher, hein, mais après, oui.
Bien sûr. Mais j'ai peut-être été trop.
Non.
Mais en tout cas, oui, c'est différent aussi de la masturbation. Regarder un film porno, c'est pas ça qu'on remet en cause là, c'est vraiment la pornographie.
Exactement. Okay.
Et alors, quel conseil. Pourriez-vous donner à nos auditeurs afin de pratiquer une sexualité sans danger, peut-être assez succinctement ?
La loi, elle dit, en matière de sexualité, on peut tout faire si tout le monde est consentant. Moi, c'est ce qu'on martèle en séance, avec tous les publics. Hein. S'il y a une chose à retenir de nos interventions, c'est vraiment ça, quoi. Si tout le monde est consentant, ça roule. S'il manque le consentement d'une ou plusieurs des parties, faut pas le faire. C'est interdit, ça craint et on arrête là.
Ouais. Carrément.
Rien à ajouter.
Très très bien dit, c'est sûr. Alors maintenant, parlons un petit peu de votre événement qui se lance.
Allez, j'y vais. Notre événement, Journée mondiale de la contraception, le jeudi 26 septembre. Donc juste après le 28, on est journée droit IVG, donc on a choisi le 26 septembre, mais en tout cas, on va peu parler de tout. C'est avec le soutien de notre partenaire Harmonie Mutuelle. C'est important. Et nous serons toute la journée de 10h à 17h au niveau du boulevard Béranger face à la Poste, à Tours, pardon, pour parler sexualité, contraception, nos droits, nos choix. Donc cette journée-là, elle est banalisée avec plein de partenaires. Parce qu'on l'a... On l'a construite toute seule, mais on l'a co-construit aussi quand même. On est avec le bus Sicar sur les chemins, on est avec le centre LGBTI, le CHRU, le département, la maison des droits de l'enfant, la FRAPS, la ville de Tours évidemment, le collège de gynécologie, le BIGE. Et c'est pas mal. Ouais. J'en oublie
Je suis confondue la maison des droits de l'enfant avec la maison des adolescents. Ce qui n'est pas très grave, mais...
On salue la maison des droits de l'enfant.
Ah, oui. Qui est aussi un de nos partenaires,
évidemment.
Ouais, et donc bah voilà, on monte un village éphémère ce jour-là. On a la chance d'avoir la ville de Tours qui nous prête des petits barnums, ça va être chouette. Pour accueillir bah, tous les partenaires que vient de vous citer Camille. On va avoir des groupes qui passent. On a déjà quelques petites réservations de créneaux de la part de nos partenaires X ou Y. Alors là, ça va être tout public. Hein. On a des personnes en situation de handicap déjà qui ont prévu de venir.
Oui, public scolaire.
Voilà, des jeunes de la PJJ.
Jeunes de la mission locale.
Oui, le but en fait de cette action, pourquoi on se pose boulevard Béranger, là, quasiment place Jean Jaurès, c'est de sensibiliser le grand public. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un nombre assez important de gens qui soient sensibilisés, alors plus ou moins, hein, si vous n'avez pas le temps, passez 5 minutes, mais voilà, on aura tout un tas d'outils, des choses ludiques, il y aura des expositions, on va proposer des débats, il y a des jeux qui sont prévus, enfin voilà, ça risque d'être une chouette journée.
De toute façon, vous ne pourrez pas nous louper si vous passez Jean Jaurès. Hein.
Oui.
Le lieu est bien choisi.
Oui. Ouais, pour situer, souvent ça parle aux gens, c'est sur la partie où le camion du don du sang se pose d'habitude.
Le marché aux fleurs, ouais.
Voilà, exactement.
Donc venez nous rencontrer sur cette journée, nous et de nombreux partenaires, on pourra échanger. On est sur la journée mondiale de la contraception, mais vraiment on peut parler de sexualité au sens large, avec plein d'outils, comme l'a dit très très bien Agathe, plein d'outils et d'activités.
En termes de contenu, alors c'est encore à travailler parce que, attendez, on n'y est pas encore. mais on essaye aussi là de développer des choses sur tout ce qui est contraception masculine parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et qui nous semble être un sujet un petit peu important et peut-être même primordial dans la lutte contre l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et oui, alors Thibaut, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ah bah ce serait bien. Ce serait bien que ça se développe. Aussi, bah oui, pour que.
Bah oui.
Quand on ait tous l'occasion de participer à la contraception, quoi. Il n'y a pas de raison. Ce serait bien.
Bah ouais.
Que ça avance un peu.
Très souvent, dans les cas qu'on a, nous, au planning familial, on s'en rend compte. Alors, très bien, souvent, non, pas souvent, justement, de temps en temps, on a affaire à des couples. Mais quand il y a problème, j'ai envie de dire que peut-être dans la moitié ou plus de la moitié des cas, on est face à une femme seule qui parfois a la chance d'être accompagnée par sa copine. Mais voilà, c'est important de noter quand même que dans ces questions de sexualité, de contraception, voire même de grossesse, ben en général on est deux quoi.
Et donc vous avez des exemples, parce que enfin moi personnellement la contraception chez les hommes, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des outils?
Alors oui, on a des outils, mais il faudra venir nous rencontrer le 26 septembre. Parce qu'en fait, on peut vous les montrer. En fait, ce sont des sous-vêtements, ce qu'on appelle des sous-vêtements pour la contraception masculine. Donc il faut venir les voir. Ce sera mieux que de vous les décrire là.
D'accord.
Et puis il y a des choses qu'on peut pas obtenir en démonstration, mais il y a beaucoup de recherches en ce moment là sur tout ce qui est pilule masculine notamment. Enfin voilà. Donc le but c'est de pouvoir en débattre avec le public, faire découvrir ce qu'on a à notre disposition pour l'instant. Nous, planning familial, encore une fois, on est sur le volet prévention, information, orientation, mais il y aura les partenaires, plutôt ceux qui sont sur le volet médical. Il y aura le centre de planification, il y aura le CEGID, qui est le centre de dépistage.
Et je pense que c'est ce qui va faire toute la richesse de cette journée, c'est le partenariat multiple et varié de cette journée qui va faire que, oui, on peut avoir des questions, oui, on peut avoir des réponses différentes.
Voilà. Voilà. Il y a le collège de gynécologie aussi du centre Val-de-Loire qui sera là.
Exactement.
Donc, je pense que ça va être très complémentaire et à mon avis, ça va donner des débats assez, assez intéressants.
Oui.
Oui, carrément. Merci, merci beaucoup à tous les trois. C'était super de vous avoir aujourd'hui. Chloé, que nous as-tu concocté?
Eh bien, on revient sur une troisième ambiance différente.
Allez.
Ce sera du coup les Casseurs Flotteurs, un groupe un peu plus connu. Et la musique, c'est Prends des pièces.
Tu fais quoi, t'écris?
Ouais, j'écris mon CV. Là, il y a un trou de 10 piges, je comprends pas où je suis passé.
Sérieux?
Bah ouais, mais bon.
Non mais sérieux, t'es vraiment en train d'écrire ton CV?
Bah bien sûr, j'écris mon CV. Et moi, leur truc de single, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais?
Ouais, je vois, après ça sert à rien de flipper, je veux dire... C'est pas comme si on avait jamais bossé. Tiens, prends la manette.
J'ai jamais voulu jouer les hippies. Je vis bien moins d'amour et d'eau fraîche que de films de boules et de whisky. Je parle pas d'éclater des truffes à midi. Je parle du minimum vital qui fait qu'à 16 ans je me suis dit: va falloir être réaliste, va falloir trouver des thunes avant de devenir un vrai artiste. Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces. Les poulets défilent en barquette sur un tapis roulant. Pas besoin du brevet des collèges pour comprendre que ta vie fout le camp. Assis tout le temps, t'as l'impression que le temps s'arrête. T'as qu'une seule pause pour pisser, donc tu fumes ta clope en cachette. Des plumes, des coupes en balles, plastifie transpalette. Pour éviter de craquer, pense à des trucs cool dans ta tête. Juste au jour où cette question t'effleure l'esprit. Quelle différence entre ceux qui bossent à l'abattoir et les tueurs en série. Prends des pièces, prends des pièces. Téléphoner pour une banque sous un faux blaze. Arnaquer les petits vieux, leur demander de cocher la bonne case. Ou refourguer des bagnoles d'occasion. Claquer ta première paye dans un costard comme un pauvre naze. Ou vérifier les prix, faire passer les codes bas. Supporter les plaintes pour les filles, les tchatches des connards. Ou errer sur les trottoirs, donner des prospectus. Jeter la moitié, se faire cramer, trouver des fausses excuses. Ah, la poubelle.
Prends des pièces.
Il avait un couteau.
Prends des pièces.
Plateforme d'appel, dernier recours quand t'as plus de thunes. Tu te manges 8 heures d'oreillette par jour, t'as les tympans qui fument. Un client conflictuel, tout ce qui sort de sa bouche dégoûte. Impossible de craquer, ton boss surveille en double écoute. Tu connais tes répliques sur le bout des doigts. Bluff, rassure, mitonne, renvoie vers tout service quand tu sais pas. Tu finis ta semaine en léthargie. Tu veux plus jamais décrocher, ta meuf t'embrouille, t'es H24 sur messagerie.
Bonjour, prends des pièces.
Prends des pièces.
Tenter de se faire respecter, leur faire leur plat préféré. Essayer d'endormir les sales gosses avec un DVD. Ou enquêter, prospecter, télémarketer. Avancer dans le questionnaire sans que le sujet t'envoie péter. Ou t'as fait 9 à 5 déjeuners sur un tas de déchets. Trier les plastiques parce que personne sait dans quel sac les jeter. Visiter des sites avec des touristes arriérés. Réinventer l'histoire, l'important c'est que le client croit que c'est vrai.
Guillaume le Conquérant,
prends des pièces.
Roi d'Égypte,
prends des pièces.
Tu détalonnes mes places de ciné. T'as l'air excédé parce que ça fait bientôt 2 ans et t'es toujours en CDD. Entre deux séances, tu portes une chef d'équipe bien chiante. Fais le vide. Empile les boîtes de pop-corn par 50. Tu vois pas le bout de la file d'attente, t'es coincé au point vente. Une vieille te demande de quoi ça parle, t'as pas vu le film, invente. Formule les mêmes phrases toute la journée en mode binaire. Rentre chez toi fumé par le stress, en qui les somnifères. Prends des pièces, prends des pièces.
Retourner des steaks, nettoyer des plaques huileuses. Hanté par l'odeur des graisses, le bip de la friteuse. Décoller des chewing-gums sous des tables miteuses. Laver des classes ennuyeuses, équipé d'une shampouineuse. Hurler beignets, guigui, chouro, chichi. Arpenter les plages raquées par le soleil de midi. Ou supporter les cris, les coups, les bousculades, les guillis. Étouffer sous la chaleur d'un vieux costume de Winnie. Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces.
Ouais, moralité, on a intérêt de se concentrer sur cette putain de zikmu si on veut pas retourner à tous ces jobs de merde.
Eh bien, vous êtes toujours en direct de Radio Campus dans votre émission Sortez 99.5, mais vous êtes censé être au courant. Donc ça va être l'heure de votre agenda. You gon' do now, now, now. Une semaine après le début, le festival Jazz en Touraine continue avec deux concerts ce soir. Culti Song Trio, qui se compose d'une batterie, de saxophone et de contrebasse. Ce sera à 19h, à Montbouy-sur-Loire. Nous aurons aussi Lura, à la voix, accompagnée d'un piano, d'une guitare et d'une basse, et d'une batterie, à 21h, toujours à Montbouy. Vous aimez la charcuterie? Vous aimez la musique? Vous êtes compétiteur? Alors rendez-vous pour la soirée La Vida Rosa, qui propose une soirée blind test. C'est ce soir de 20h à 2h au bar La Vida Loca, 16 rue de la Rôtisserie à Tours. Et en prime, vous pourrez tenter de gagner des places pour un festival incroyable et dont tout le monde parle, Quartier Libre. Soirée Brigante Thursday, un gros programme. Dégustation de leur bière en partenariat avec La Petite Maize pour les fins connaisseurs. Une programmation de DJ de leur label Sankas Slakras, Higher Lights et plus encore. Il y aura aussi un tirage au sort pour tenter de gagner des casquettes et des t-shirts. Et en plus, vous aurez un stand de produits Brigante. Attention, pas de CB là-bas. C'est ce soir de 21h à 4h aux Arcade Institute, 8 place de la Monnaie à Tours. Attention, gros concert qui va beaucoup plaire à Alexandre, The White Dust en live. C'est un groupe de rock psyché qui ravira vos oreilles. Guitare, voix, basse et batterie seront au rendez-vous. Fruit de la rencontre de trois musiciens partageant la scène blues rock et funk, cela a donné ce groupe depuis 2015. Et comme je le disais, il est très apprécié de votre animateur préféré, Alexandre.
Oui, complètement, sa guitare chante quand elle sonne.
Vous pourrez donc les retrouver ce soir pour un concert d'exception au pub The Pale, 18 place Foire-le-Roi à Tours, de 21h à minuit. Et enfin, n'oubliez pas que le raid de la zone 51, c'est demain. Alors si vous vous sentez l'âme d'un Indian Konoha, les États-Unis n'attendent que vous. C'est sur cet événement totalement barré qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser.
Hey, eh bien, merci Chloé. Alors voilà, on peut peut-être rappeler comment, enfin les infos pratiques en fait du planning familial.
Le planning familial, alors on est au centre de vie du Sanitas toute la semaine, de 9h à midi et de 14h à 18h si vous avez besoin de venir chercher des préservatifs, de poser une question ou autre. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, planning familial 37, j'insiste bien sur le 37 parce qu'on a tous nos pages indépendantes. Au téléphone 02 47 20 97 43. Et quoi d'autre, Camille ?
Bah, c'est pas mal.
Une petite adresse mail, je sais pas ?
Oui, contact@leplanningfamilial37.fr. Pour notre adresse, c'est au 10 Place Neuve au centre de vie du Sanitas.
Yes. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Super. Oui. Mais c'était beaucoup. Un réel plaisir. On peut peut-être finir pour rappeler juste que le 26 décembre.
Septembre. Et on vous attend. Et on vous attend tous les deux.
26 septembre, boulevard Béranger, face à la poste de 10h à 17h. Dans la joie et la bonne
humeur.
Ouais.
On est pas. Ouais, merci beaucoup à vous.
N'oubliez pas que vous allez retrouver quand même cette émission en podcast après. Et on va se laisser sur une dernière musique. Encore une fois, une ambiance différente. C'est Parov Stellar. All night.
Let's ride. Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.